Je vous propose de continuer cette série que j'ai commencée sur l'Épître aux Éphésiens. J'étais allé dans le chapitre 1 jusqu'au verset 7. On va reprendre notre lecture à partir de ce verset jusqu'à la fin du chapitre. Donc, Éphésiens, chapitre 1, verset 7. En Christ, parce qu'il s'est offert en sacrifice, nous avons été délivrés et nous avons reçu le pardon de nos fautes. Dieu a ainsi manifesté sa grâce dans toute sa richesse, et il l'a répandue sur nous avec surabondance, en nous donnant pleine sagesse et pleine intelligence, pour que nous connaissions le secret de son plan, ce plan qu'il a fixé d'avance dans sa bonté en Christ, pour conduire les temps vers l'accomplissement. Selon ce plan, tout ce qui est au ciel et tout ce qui est sur la terre doit être réuni sous le gouvernement du Christ. Et c'est aussi en Christ que nous avons été choisis pour lui appartenir, conformément à ce qu'avait fixé celui qui met en œuvre toutes choses, selon l'intention qui inspire sa décision. Ainsi, nous avons été destinés d'avance à célébrer sa gloire, nous qui, les tout premiers, avons placé notre espérance dans le Messie. Et en Christ, vous aussi, vous avez entendu le message de vérité, cet évangile qui vous apportait le salut. Oui, c'est aussi en Christ que vous avez cru. Vous avez obtenu de Dieu l'Esprit Saint qu'il avait promis et par lequel il vous a marqué de son sceau pour lui appartenir. C'est cet Esprit qui constitue l'acompte de notre héritage en attendant la délivrance du peuple que Dieu s'est acquis. Ainsi, tout aboutit à célébrer sa gloire. Pour toutes ces raisons, moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous ceux qui appartiennent à Dieu, je ne cesse de dire ma reconnaissance à Dieu à votre sujet quand je fais mention de vous dans mes prières. Je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, vous donne par son esprit sagesse et révélation pour que vous le connaissiez, qu'il illumine aussi votre intelligence afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelés, quelle est la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu vous fait partager avec tous ceux qui lui appartiennent, et quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en notre faveur, à nous qui plaçons notre confiance en lui. Cette puissance, en effet, il l'a déployée dans toute sa force, en la faisant agir dans le Christ lorsqu'il l'a ressuscité d'entre les morts et l'a fait siéger à sa droite dans le monde céleste. Là, le Christ est placé bien au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute domination et de toute souveraineté, au-dessus de tout nom qui puisse être cité, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Dieu a tout placé sous ses pieds. Et ce Christ qui domine toutes choses, il l'a donné pour chef à l'Église, qui est son corps. Lui en qui habite la plénitude du Dieu qui remplit tout en tous. Magnifique passage, n'est-ce pas ? Donc, dans le verset 7, Paul dit que Dieu a manifesté sa grâce dans toute sa richesse en Christ. Toutes les bénédictions dont Paul brosse le tableau dans cette épître sont répandues, administrées par le Père, en Christ et en lui exclusivement. Christ, le Saint-Fils du Dieu unique, est la clé de voûte de tout le dessein de Dieu envers sa création et envers nous, ses créatures. Et si ces bénédictions peuvent être ainsi répandues en Christ, c'est parce que par lui, la question du péché a été définitivement réglée. Ce verset 7 exprime donc la première des bénédictions dont nous sommes gratifiés, la délivrance, le pardon de nos fautes. Il convient tout à fait, dans nos cultes personnels comme en assemblée, d'exprimer sans cesse notre reconnaissance pour cette merveilleuse bénédiction. Nous sommes pardonnés, sauvés Il n'y a plus d'obstacle entre nous et Dieu. Paul, dans les versets suivants, va dévoiler l'étendue de toutes les autres bénédictions dont nous sommes bénéficiaires. Au verset 8, « Sa grâce ne nous donne pas que le salut, mais aussi pleine sagesse et pleine intelligence. » Le mot utilisé par Paul, traduit par « intelligence », dans le grec c'est « phronesis », ce mot peut être traduit par « compréhension ». C'est le fait de sonder, de comprendre l'extraordinaire et la glorieuse étendue du plan de Dieu pour le renouvellement de sa création, souillée présentement par le péché. Au verset 9, il nous fait accéder ainsi à la connaissance du secret de son plan dans sa conduite de l'histoire du monde. Littéralement, le texte dit, il nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon sa bienveillance, le mystère qu'il s'était proposé en lui-même. C'est ici la troisième mention dans ce chapitre de la volonté de Dieu. Et cette répétition a certainement pour but de nous faire comprendre qu'elle est souveraine et s'accomplira envers et contre tout, c'est-à-dire quels que soient les efforts du diable pour la contrecarrer. Nos premiers parents, Adam et Ève, placés dans des conditions de vie idéales et en communion régulière avec leur Créateur, ont convoité la seule chose qui leur était interdite, la connaissance par eux-mêmes du bien et du mal. C'était une folie, car cette connaissance ne se trouve qu'en Dieu, que dans la communion avec lui, communion qu'ils ont ainsi dramatiquement rompue. Et c'est ainsi qu'ils ont construit, et tous leurs descendants après eux, des morales, toutes humaines, étrangères à Dieu, et d'ailleurs extrêmement variables, d'un peuple à l'autre et au cours de l'histoire. Ici, Paul nous parle d'une connaissance qui va beaucoup plus loin que les morales humaines, la connaissance du mystère de la volonté de Dieu dans la façon dont il conduit l'histoire en Jésus-Christ et pour manifester sa gloire. Au verset 10, ce mystère, traduit par « plan » dans la version que j'ai lue, concerne la manière dont Dieu va instaurer la domination de son Saint-Fils sur toute sa création. Alors nous savons que Christ règne d'ores et déjà du haut du ciel, puisque toute autorité lui a été donnée par le Père après sa résurrection, comme il l'a déclaré à ses disciples juste avant de remonter au ciel. En Matthieu 28, « J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. » L'auteur de l'Épître aux Hébreux, chapitre 2, versets 7 et suivants, citant le psaume 8, écrit « Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as tout mis sous ses pieds. » En soumettant tout à son autorité, Dieu n'a rien laissé qui puisse ne pas lui être soumis. C'est l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui parle. Hein. Or, actuellement, nous ne voyons pas encore que tout lui soit soumis. Et de même, au XXIe siècle, nous ne voyons pas encore que tout lui soit soumis. Mais c'est le but poursuivi par Dieu et il s'accomplira. Il s'accomplira pleinement à la fin des temps. Soyons-en sûrs. Ce règne de Christ est exprimé dans la traduction du semeur par « réunir harmonieusement tout ce qui est au ciel et tout ce qui est sur la terre en Christ ». Le verbe grec là, est un verbe curieux dans lequel il y a le mot « tête ». Rassemblés sous une même tête, tout rassemblé sous un même chef. Le dessein de Dieu est donc d'établir la souveraineté de Christ sur tout ce qui est sur la terre, mais aussi tout ce qui est au ciel. Sur la terre, il y a partout des autorités politiques, des États et des chefs d'État. Quel que soit le degré de sophistication de cette autorité, elle existe partout, y compris dans les tribus les plus primitives. Il y a toujours des chefs. Des autorités morales, les diverses philosophies et codes moraux, les autorités judiciaires, qui ont des traits communs, mais aussi de grandes divergences. Si l'on compare, par exemple, le code civil occidental qui nous régit et la charia musulmane. Et au ciel, il y a aussi des autorités. Certaines bonnes, les anges et archanges au service de Dieu, pour l'administration de sa création et leur service en faveur des élus, c'est-à-dire de nous, et d'autres mauvaises, Satan et ses anges, les démons. Toutes ces autorités seront soumises à celles de Christ. C'est la volonté de Dieu et bien sûr, elle ne manquera pas de s'accomplir. Au verset 11, après avoir brossé le tableau du plan de Dieu pour sa création en général, Paul nous décrit maintenant ce qui concerne ceux qui ont mis leur confiance en Christ. Et c'est ce « nous » qu'il emploie dans ce verset. C'est aussi en Christ qu'il nous a accordé notre part d'héritage. Paul dit en Colossiens 1, verset 12, « Vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage qu'il réserve dans la lumière aux membres de son peuple saint. » Et Paul écrit également en Romains 8, 17, « Et puisque nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et donc co-héritiers de Christ, puisque nous souffrons avec lui pour avoir part à sa gloire. » Alors, en quoi consiste son héritage? Ce dernier verset donne probablement une partie de la réponse. Avoir part à la gloire de Christ en tant que son épouse, rien moins. Mais notons que la possession de cet héritage glorieux implique que nous souffrons aussi avec Christ durant notre pèlerinage terrestre. D'ailleurs, Paul dit un peu plus loin dans sa lettre que le Saint-Esprit est comme les arts de cet héritage, en quelque sorte une partie du tout qui nous sera donnée à la fin des temps. Et c'est en Christ que cet héritage nous est conféré par le Père. Cela signifie que ceux qui ne sont pas en Christ, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas mis leur foi en lui, n'ont aucune part à cet héritage. Mes amis, rendons-nous compte que dans les nouveaux cieux et sur la nouvelle terre, il n'y aura que des hommes et des femmes en Christ, c'est-à-dire que des hommes et des femmes rachetés par le sang versé sur la croix. Et dans la deuxième moitié du verset 11, Paul nous dit que l'attribution de cet héritage est conforme à ce qu'avait fixé celui qui met en œuvre toute chose selon l'intention qui inspire sa décision. Dans le texte original, on retrouve une nouvelle fois l'expression « selon la volonté de Dieu ». Cette volonté exécutera pleinement le plan qu'il s'est fixé. Versets 12 et 13, « Ainsi, nous avons été destinés d'avance à célébrer sa gloire, nous qui les tout premiers avons placé notre espérance dans le Messie. » Alors pourquoi Paul dit-il « nous qui les tout premiers » ? Le verset 13 explique ce « nous » car il s'adresse à ses lecteurs, Éphésiens et probablement autres, avec l'expression « vous aussi ». Ce « nous » désigne donc les membres du peuple juif qui ont cru en Jésus, ses disciples, ses apôtres, et ensuite tous les chrétiens de l'Église primitive de Palestine. Nous, juifs, et vous, païens, nous avons été destinés d'avance à célébrer sa gloire, parce que nous avons placé notre espérance dans le Messie. Ces deux verbes dans le texte grec sont juxtaposés, ce qui exprime une relation de cause à effet. Nous héritons parce que nous sommes préordonnés, prédestinés à cet héritage. Et nous sommes destinés d'avance non seulement à recevoir ce fabuleux héritage, mais aussi en conséquence logique à célébrer la gloire de la grâce de Dieu. Il nous revient en effet à nous qui n'y sommes pour rien dans notre salut, comme dans l'attribution de cet héritage, de célébrer la gloire de la grâce qui a décidé de nous sauver et de nous conférer cet héritage. Et nul doute, que les anges se joignent eux aussi à notre louange de la célébration de la gloire de cette grâce dans nos cultes. Nous avons le privilège de la célébrer sur cette terre et nous le ferons encore et certainement encore mieux sur la nouvelle terre. Au verset 13, « En Christ, vous aussi, donc les païens, vous avez entendu le message de vérité, cet évangile qui vous apportait le salut. Vous aussi, donc les destinataires de cette lettre, des païens convertis au Christ, qui ont cru et qui héritent aussi du salut. Vous qui avez cru, vous avez obtenu de Dieu l'Esprit Saint qu'il avait promis et par lequel il vous a marqué de son sceau en signe que vous lui appartenez. Le Seigneur Jésus avait promis l'envoi du Saint-Esprit à ses disciples, le défenseur en justice, mais aussi le consolateur, selon la façon dont on traduit le mot paraclet. Il a été largement répandu sur les Juifs venus pour la fête de la Pentecôte à Jérusalem. Mais il a aussi été répandu sur des païens pieux, Le livre des Actes des apôtres nous décrit cet épisode où Pierre a été convié pour se rendre chez un militaire romain croyant pour y prêcher le salut en Jésus-Christ. Quelle ne fut pas sa surprise et celle de ses compagnons juifs d'assister à la descente du Saint-Esprit sur ses auditeurs suite à sa prédication. On trouve cela en Actes 10, verset 44. Alors que Pierre prononçait ces mots, c'est-à-dire le message de l'Évangile, l'Esprit-Saint descendit soudain sur tous ceux qui écoutaient la parole. Les croyants juifs qui étaient venus avec Pierre furent très étonnés de voir que l'Esprit-Saint était aussi donné aux non-juifs et répandu sur eux. Deuxième partie du verset 13. « Vous avez obtenu de Dieu l'Esprit-Saint qu'il avait promis et par lequel il vous a marqué de son sceau en signe que vous lui appartenez. » L'Esprit-Saint, troisième personne de la Trinité, fait sa demeure dans le croyant dès sa conversion à Christ, comme l'a expliqué Rémy lors de sa dernière prédication. Nous sommes sa demeure, il est chez lui. Reconnaissez que c'est tout bonnement incroyable, et pourtant c'est vrai, puisque c'est la parole de Dieu qui le dit. C'est le gage d'une vie transformée, car il n'aura de cesse de nous rendre conformes à notre modèle, Christ. Mais n'oublions pas que c'est une personne que l'on peut malheureusement attrister par notre comportement, voire même éteindre, c'est-à-dire rendre inopérante lorsque nous cherchons à faire notre propre volonté. Au verset 14, cet esprit constitue l'acompte de notre héritage en attendant la délivrance du peuple que Dieu s'est acquis. Nous bénéficions de l'action bienfaisante du Saint-Esprit en nous dès que nous avons mis notre confiance dans le Seigneur Jésus. Nous expérimentons sa présence dans cette vie, sous le soleil, comme le dirait l'Ecclésiaste, c'est-à-dire pendant notre pèlerinage terrestre. Mais ce n'est que l'acompte. Alors, qu'est-ce que sera la pleine réception de cet héritage pour l'éternité? On n'a pas trop de précision dans la Bible à ce sujet, mais on peut être sûr que ce sera formidable. Paul nous rappelle que cette délivrance est promise par le Dieu qui ne saurait mentir, mais qu'elle ne sera pleine et entière que lorsque le Seigneur Jésus sera revenu et nous aura transportés dans son royaume, dans nos corps glorieux, semblables aux siens. Et il conclut ce paragraphe, « Ainsi, tout aboutit à célébrer sa gloire. » Nous avons le privilège de pouvoir le faire dès maintenant dans la faiblesse, mais un jour nous pourrons le faire libre de toute entrave et dans la pleine puissance du Saint-Esprit. Versets 15 et 16, « Pour toutes ces raisons, moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les membres du peuple saint, je ne cesse de dire ma reconnaissance à Dieu à votre sujet quand je fais mention de vous dans mes prières. » Alors Paul dit, après avoir entendu parler de la foi au Seigneur Jésus, des destinataires de sa lettre. Cette mention suggère qu'il parle des nombreux croyants qui se sont tournés vers le Dieu vivant suite à son évangélisation de la province romaine d'Asie, et pas seulement d'ailleurs des Éphésiens, qu'il connaissait bien puisqu'il avait passé 3 ans chez eux. Notons que Paul lie la foi au Seigneur Jésus à l'amour pour tous les membres du peuple saint. L'un ne va pas sans l'autre. Cet amour est un des privilèges de la famille de Dieu. Nous l'expérimentons dans l'Église locale, mais il englobe plus généralement tous nos frères et sœurs en Christ sur cette terre. Cet amour trouvait son expression pratique dans les collectes que Paul a pu encourager et organiser en faveur, par exemple, des pauvres de Jérusalem qui avaient subi une famine. Versets 17-18. « Je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, vous donne par son esprit sagesse et révélation pour que vous le connaissiez, qu'il illumine ainsi votre intelligence afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelés. » Paul avait dit un peu plus haut que ses lecteurs ont été scellés du Saint-Esprit et c'est justement lui qui va œuvrer en nous pour illuminer notre intelligence. Luc nous rapporte un moment de joie intense qu'a éprouvé le Seigneur Jésus. Au chapitre 10, verset 21, je lis ce verset, « Au même moment, c'est-à-dire lorsque les 72 disciples revinrent de la mission où il les avait envoyés et lui rendirent compte de ce qu'ils avaient vécu, Jésus fut transporté de joie par le Saint-Esprit et s'écria, « Je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et tu les as révélés à ceux qui sont tout petits. Oui, Père, car dans ta bonté, tu l'as voulu ainsi. » Le Saint-Esprit avait illuminé l'intelligence de ces 72 pour accomplir leur mission, et elle avait porté des fruits extraordinaires. Paul demande au Père la même illumination de l'Esprit pour ses lecteurs, afin qu'ils comprennent en quoi consiste l'espérance à laquelle ils ont été appelés. Versets 19 et 20. « Et que vous compreniez quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en notre faveur, à nous qui plaçons notre confiance en lui. Cette puissance, en effet, il l'a déployée dans toute sa force en la faisant agir en Christ lorsqu'il l'a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans le monde céleste. » Dieu a déployé toute sa puissance en ressuscitant Christ et en le faisant asseoir à sa droite dans le ciel. Imaginez, un homme, avec son corps d'homme ressuscité, siège à la droite de Dieu, qui est esprit, au milieu des êtres spirituels que sont les anges, comme on le voit dans l'Apocalypse. On peut être sûr que le ciel et ses armées d'anges n'avaient jamais vu une telle chose. Et c'est cette même puissance extraordinaire qu'il met en œuvre en notre faveur et nous ressuscitera de même avec des corps glorifiés pour nous accueillir dans sa présence à la fin des temps. Versets 21-22. Là, Christ est placé bien au-dessus de toute autorité. On l'a chanté dans notre cantique, au-dessus. Bien au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute domination et de toute souveraineté, au-dessus de tout nom qui puisse être cité, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Dieu a tout placé sous ses pieds. Ces termes désignent des puissances angéliques dont certaines sont au service de Dieu, avec une certaine hiérarchie, des archanges, etc., comme on peut le voir dans le livre de Daniel, mais aussi et surtout des puissances angéliques mauvaises, des démons dont le prince est Satan. Ces puissances mauvaises n'échappent pas à l'autorité de Christ et seront jugées et anéanties lors de son retour. Néanmoins, dans la vie présente, Paul nous incite à les combattre avec les armes qu'il détaille à la fin de cet épître. Verset 23. « Et Christ, qui domine toutes choses, a été donné pour chef à l'Église, qui est son corps, lui en qui habite la plénitude du Dieu qui remplit tout en tous. » Christ, tête de son corps qui est l'Église, est une notion sur laquelle Paul insiste beaucoup. Mais dans ce passage, plutôt que de parler seulement de Christ comme tête de l'Église, Paul fait allusion à la domination cosmique de Christ, ce qui implique qu'il est le chef souverain de toutes choses. Combien cela est rassurant pour nous, faibles créatures dans ce monde marqué par la chute, de savoir que notre chef, notre époux, domine non seulement sur son Église, mais sur toutes choses, y compris celles qui nous sont hostiles.